s'applique aujourd'hui à une mosaïque, sans doute, que les éditions Care tentent de saisir en proposant à des auteurs belges d'écrire des nouvelles qui disent quelque chose de leur pays. En cette fin d'année, Grégoire Paulet, mais aussi Myriam Leroy, Rosemary François et Marc Kakeber se sont prêtés au jeu et... Tous ces recueils sont pleins de qualités, mais j'ai eu un très gros coup de cœur pour celui de Grégoire Paulet, appelé 101 détails. Il est avec nous ce matin. Bonjour Grégoire Paulet.
Bonjour.
101 détails parce que c'est précisément 101 textes, 101 micro-fictions qui composent votre recueil, parfois moins d'une page. Et c'est très impressionnant parce qu'en quelques mots, vous parvenez à planter un décor, des personnages. En quelques mots, on parvient même à s'attacher à vos personnages. Et vous décrivez la Belgique des cafés où vous écrivez des interactions sociales qui pourraient être superficielles mais qui finalement en disent beaucoup. C'est souvent drôle, souvent émouvant aussi, et dans chaque texte il y a toujours une petite chute bien ficelée à laquelle on s'attend pas. Bref, c'est un vrai travail d'orfèvrerie que vous avez fait. Qu'est-ce que vous aviez envie, puisque c'est le thème de ces recueils, de montrer de la Belgique, Grégoire Paulet? Quand on vous a proposé le projet, vous aviez tout de suite une idée précise en tête ou c'est venu progressivement?
En fait, ça fait longtemps que j'écris des miniatures comme ça, des détails ou des micro-fictions, pas quotidiennement, mais presque, comme une sorte d'hygiène d'écriture, d'hygiène de travail, et parce que aussi, mon idéal en tant qu'écrivain, c'est d'arriver à une forme de d'écriture permanente, de ne pas être loin de l'écriture et puis de devoir faire un grand travail pour y retourner, mais d'être toujours en contact avec le monde via l'écriture. Et donc, depuis que j'ai longtemps vécu en Espagne, mais là, ça fait quelques années que je me suis réinstallé à Bruxelles, et j'ai fréquenté beaucoup, le matin en prenant mon café, différents établissements, et très souvent, pas toujours, mais très souvent, je me donne la mission de ressortir avec un court texte qui aurait marqué justement mon accord avec le moment, mon accord avec le lieu à ce moment-là. Et donc, ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je vois, j'essaye d'en ressortir non pas un poème, ça pourrait presque être une démarche de poète, hein, sauf que c'est pas du tout des poèmes, mais d'en ressortir un petit texte qui marque avec intensité ce moment-là. Et alors, comme ça finissait par faire un portrait de Bruxelles, je me demandais qu'est-ce que je vais faire un jour avec ça. Et quand l'éditeur m'a parlé de ce, enfin, les directeurs de collection, Vincent Engel, m'a parlé de ce projet, je me suis dit, ah ben voilà, là je pense que j'ai quelque chose qui convient tout à fait. Ce ne sera pas un grand portrait, ce sera un portrait en mosaïque, et ça me plaisait bien.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans les cafés? Qu'est-ce qui vous marque surtout? Parce que c'est évidemment super gai d'aller dans les cafés, mais c'est des gueules, c'est des propos, qu'est-ce qui attire votre attention?
Alors ça, on ne le sait jamais d'avance, et l'idée c'est d'arriver toujours avec une forme de disponibilité, c'est-à-dire qu'on écrit avec les oreilles, comme on dit, drôlement, on est disponible jusqu'à ce que quelque chose, un mot, une image, souvent un mot, hein, c'est souvent quand même par les mots que arrive, qui a été prononcé par quelqu'un, et alors il rentre, et alors il y a une sorte d'association d'idées qui se crée, et votre perception du réel prend corps à travers un texte, et alors les personnages, la personne qui a prononcé ce mot, hein, et alors ça vous donne forcément des choses qui sont extrêmement variées, parce que ce qui va être dit ou ce qui va se voir dans un café est sans rapport, disons, donc c'est...
Vous leur dites parfois aux gens que vous avez croisés que leurs propos vont être peut-être repris dans un texte?
Alors jamais, mais en revanche il y a des personnes curieuses qui viennent parfois acheter un coup d'œil, ça oui. Alors à ce moment-là d'ailleurs l'inspiration tombe tout de suite, c'est fini.
Bon, donc il faut pas vous déranger au moment où vous écrivez, mais par contre peut-être que les gens qui nous écoutent, certains sont dans ce recueil finalement.
Ah, certainement, oui.
Ces formes courtes, vous l'avez dit, vous écrivez aussi, enfin vous êtes aussi romancier. Qu'est-ce qu'elles permettent de faire que le roman, par exemple, ne permet pas de faire?
Et la forme courte. Pour ça, j'ai de la chance, ici en Belgique, on aime la forme courte en général. C'est très difficile de convaincre, en France par exemple, avec des recueils de nouvelles, j'en ai publié qu'un seul, en France c'est vraiment très difficile. Ici, des micro-fictions, chez Gallimard, on m'a dit, ouais, c'est quand même un petit peu compliqué, des textes aussi courts, etc. Ici en Belgique, directement, bras ouverts, formidable, etc. Il y a quelque chose dans le texte très court, qui est de l'ordre du détail, qui, à mon avis, doit évoquer un peu le plaisir qu'on a ici à manger des pralines, vous savez, des choses qui sont intenses et petites. Pour moi, il y a une, Un de mes peintres préférés, c'est Bruegel, et à mon avis, il a capté l'esprit de la Belgique bien avant l'indépendance du pays. Et ce Bruegel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grands tableaux pleins de tout petits personnages. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose, la bande dessinée, si vous voulez, il y a quelque chose de ça aussi, il y a quelque chose de mosaïque dans une bande dessinée. Si vous regardez de loin la bande dessinée, ça ressemble tout à fait à une mosaïque plein de petits personnages partout. Et donc, je pense qu'il y a dans la forme courte quelque chose qui convient très bien à notre petit pays.
Puisqu'on parle et que ce sont des formes courtes, je pense que nous avons du coup le loisir d'en lire une. Alors je vais essayer de le faire bien. Je vais lire un comme Rimbaud, issu de votre recueil Belgique, Grégoire Paulet. Comme ça, tous nos auditeurs pourront se rendre compte de votre talent. J'y vais. Il oubliait toujours d'éteindre la machine à café. Un jour, ça foutra le feu à la maison. Foutre le feu à une maison avec une machine à café, ce serait inédit. Pas du tout, on aurait dit que sa mère lisait dans ses pensées. Parce que figure-toi, monsieur qui sait tout, que dans une machine à café, il y a une résistance électrique qui chauffe très fort pour porter l'eau du café quasiment à ébullition. Et que si tu n'éteins pas la machine, la résistance continue de chauffer à blanc et que ça peut devenir très dangereux. Et maintenant, mets tes souliers parce qu'on est déjà en retard. Voilà, c'était le matin. Je te le ferai encore, ton café, songeait-il amèrement. J'ai peut-être été trop brusque, pensait-elle en le tirant par la manche. En même temps, il en met toujours partout. À sa fenêtre, la voisine en bigoudi saluait leur passage. C'était la voisine que la mère n'aimait pas. Et le fils, en son fort intérieur, prenait la décision de devenir poète, plus tard, un jour. Alors, dans ce texte, Grégoire Paulet, il y a un couple qui s'engueule, pour des broutilles, et un fils qui pense surtout à s'extraire de cet endroit pour se rapprocher de la beauté. Vous pourriez, en tant que narrateur, être du côté du fils, mais j'ai l'impression que vous avez de la tendresse pour tous les personnages, y compris ceux qui ne sont pas à la hauteur. Est-ce que c'est vrai ?
Ça, c'est presque une habitude que j'ai prise dans tous mes romans depuis le début, c'est de me dire toujours, comme disait Simenon, comprendre, ne pas juger. Et donc, c'est pas nécessairement la tendresse, mais c'est en tout cas une absence de jugement. Et cette absence de jugement ressemble fort à la tendresse, et en tout cas donne de la paix. Donne beaucoup, une grande paix en fait. Je pense que la misère morale vient de ce qu'on n'arrête pas de juger et de condamner toujours. Et donc cette attitude d'écriture, effectivement, par exemple, ce détail que vous avez lu... à commencer par une conversation qui est exactement celle qui est au début du texte, que j'ai captée, et puis que par la suite, disons, j'ai mise en contexte. Où il y a un enfant qui, excédé par l'esprit trop étriqué, trop craintif de sa mère, prend la voix d'un jour poète. Il me semble que dans ce tout petit dialogue, il y a plusieurs destins, il y a plusieurs qui se jouent et plusieurs images dans lesquelles on peut également se reconnaître. Et c'est pour ça que le titre, c'est « Un comme Rimbaud », disant « Voilà, ce qui se passe là, juste là maintenant, sous mes yeux, rue Van Goetzenhove, c'est en fait la même chose qui a dû se passer il y a 150 ans quand Rimbaud se faisait engueuler par sa mère.
» Et vous, Grégoire Paulet, vous aussi, vous avez voulu devenir écrivain et écrire pour vous extraire de quelque chose ?
Alors, peut-être. Je sais que quand j'avais 15-16 ans, que je commençais d'écrire, c'est le moment où j'ai commencé à fréquenter les cafés. Et j'avais associé l'écriture au café, peut-être aussi parce que j'avais associé le café à un endroit où on échappe à la vie sociale habituelle et notamment aux codes familiaux. Et donc il est bien possible que pour moi, effectivement, l'écriture soit une échappée et que le café même soit l'endroit où l'on se cache, d'ailleurs ça commence par K aussi, pour être libre, être dissimulé, pouvoir écrire en liberté.
Vous avez aussi beaucoup voyagé, hein. Vous êtes nomade, vous avez habité dans pas mal de villes sur lesquelles d'ailleurs vous avez écrit, Madrid, Barcelone ou Paris. Mais quand vous rentrez en Belgique, qu'est-ce que vous recherchez, puisque on parle de la Belgique dans ce recueil, qu'est-ce que vous recherchez à la maison ?
Ça, c'est vraiment très difficile à dire, mais il y a quand même quelque chose qui se respire, qui est très différent. Il y a déjà une diversité qui est énorme. Moi, j'habite à Bruxelles. C'est une ville qui est extraordinairement diverse et variée. Cosmopolite, on ne peut plus. Il y a quelque chose de... C'est difficile à dire dans le caractère. Il y a quelque chose de tendre, quelque chose de doux, quelque chose d'aimable, quelque chose de gentil, mais dans un sens très noble. Pas de gentillesse. Il y a quelque chose, moi, que je trouve vraiment réconfortant. Quelque chose où on vous laisse être qui vous êtes. Il y a une sorte d'absence d'impératif. Je pense que c'est un pays qui est fait pour être heureux et qui, d'ailleurs, où les gens cultivent d'ailleurs une forme de bonheur bien intime, bien secrète. Toutes les façades dans Bruxelles semblent, et en général en Belgique, semblent cacher quelque chose. Et ma mère me disait souvent, pour vivre heureux, vivre caché. Cette expression, à mon avis, est très belge.
D'accord. Eh bien, puisqu'on a un tout petit peu de temps, puisqu'on était en avance tout à l'heure, et que ce sont des textes courts, comme on le disait, je vais en lire un autre, qui est très différent. Ça s'appelle Lapsus. J'y vais. C'est idiot parce qu'elle n'en fera jamais rien de ce type qui lui plaît, qui fait un pas de danse en apportant les plats, qui a une blague ou un mot gentil pour tous les clients et pas seulement pour elle, qui a l'air d'avoir la bonne humeur rivée au corps. Il fait peut-être semblant, il a sûrement des creux comme tout le monde, certainement, et pourtant pas si sûr, c'est peut-être de la joie toute pure, le serveur de la pizzeria à côté du bureau. Et elle, en attendant, elle n'est sûrement pas la joie pure, elle est la joie timide tout au plus, à l'heure du lunch. Et elle est triste chez elle, et elle est stressée au boulot. Et le boulot, c'est important. Et chez elle, ça ira peut-être mieux un jour, comme ça allait bien au début. Donc, elle n'en fera jamais rien du sourire du serveur de la pizzeria Trattoria Firenze, ni de ses clins d'œil, ni peut-être de son cœur amoureux. Parce que qui sait ? Mais non, évidemment non. L'addition, si je vous plaît. Waouh, le lapsus, il n'a pas remarqué. Tout de suite, mademoiselle. Ça parle beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup de coups de foudre dans ces petites fictions. Vous tombez souvent amoureux, Grégoire Paulet, parce que je me suis vraiment posé la question, parce que c'est souvent un homme seul qui rencontre, qui croise des femmes et qui tombe amoureux instantanément. C'est vous ?
Je ne sais pas, peut-être, hein, parce que vous savez, comme on dit des rêves, on est tous les personnages de ces rêves. Hein. Il n'y a personne d'autre dans notre tête. Donc peut-être qu'on est aussi tous les personnages de nos fictions et de nos livres, c'est probable. Mais il me semble aussi que dans ce qui est saillant, ce qui est frappant dans un tout petit moment de vie, et donc dans un très court texte, c'est souvent les moments de rencontre. La rencontre, c'est quelque chose de très particulier. Il y a quelque chose d'électrique qui se passe dans une rencontre, et certainement dans une rencontre de gens qui s'aiment, mais même d'inconnus ou de gens qui sont obligés de s'adresser la parole pour demander la rue ou que sais-je, ou l'heure. La rencontre, c'est à mon avis le moment clé de toute la vie, j'allais même dire de toute l'histoire de l'humanité. C'est une histoire de rencontre. Et donc forcément, quand j'écris un texte très court, une des choses qui va, disons, faire étincelle comme deux silex, comme ça, ça va souvent être la vision ou l'imagination d'une rencontre. La rencontre amoureuse étant évidemment le sommet de la rencontre.
Il y a beaucoup d'étincelles, en tout cas, dans ce recueil. Belgique, donc, et sans un détail de Grégoire Paulet, c'est paru aux éditions Kerr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Grégoire Paulet.